Voilà, c'est l'enseignement numéro 2 sur notre verset de fil rouge de l'année. On va faire juste une petite récapitulation. C'est avec le Christ que vous avez été réveillé de la mort. Cherchez donc les choses en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Et donc, on nous parle aussi d'ascension, de chercher les choses d'en haut. Je disais la fois dernière combien j'aimerais être à la place du bonhomme. Mais bon. Une autre traduction dit « Puisque nous sommes ressuscités avec le Christ, que nous avons été transférés ou transportés, c'est ce que dans son royaume, c'est ce que nous avons vu la fois dernière, cherchons avec soin et de manière méthodique les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car notre positionnement doit se trouver dans le ciel où Jésus est assis. » C'est le condensé de notre enseignement, l'enseignement que j'ai donné la fois dernière sur le sujet. Puisque nous sommes ressuscités, nous avons été transférés et transportés dans son royaume. Alors nous cherchons, parce que le terme « chercher » et « rechercher » est un peu différent, nous cherchons avec soin et de manière méthodique les choses d'en haut. Notre positionnement doit se trouver dans le ciel, là où Jésus est. Je souhaitais pour aujourd'hui voir comment, en tout cas c'était l'idée que j'avais émise, c'était voyons comment chercher les choses d'en haut. Et puis, j'avais envie de vous apporter des choses spirituelles d'en haut, mais au fur et à mesure, j'ai l'impression que l'Esprit Saint me disait « Mais reprends quelques bases, parce que s'il n'y a pas de base, tu ne peux pas monter avant de remettre quelques bases. » Et je voulais apporter 4 points différents, et puis finalement, je suis arrivé à 2 seulement. Donc, bon, on prendra l'année hein, pour partager sur ce sujet-là. Comment rechercher les choses d'en haut? Le but de notre vie est en haut et non sur la terre. Et donc, je vous propose de nous arrêter sur ce verset de Matthieu, chapitre 6, les versets 31 à 34. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour le lendemain. Demain aura souci de lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Et nous avons dans notre tête plutôt ce terme parce qu'on l'a appris comme ça, à chaque jour suffit sa peine. C'est une expression qui est rentrée dans le langage courant. Donc 2 points à partir de ce verset. d'abord insister sur le fait que le Père sait. C'est important de prendre conscience que notre Père céleste sait qui nous sommes. Il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît aussi notre avenir. Votre Père sait, votre Seigneur, votre Dieu sait de quoi vous avez besoin dans votre vie de tous les jours. C'est un fait, c'est une réalité. C'est même pas à se poser la question, c'est comme ça. Le problème que nous avons, c'est que nous doutons, parfois ou souvent, du fait que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et alors, nous essayons de compenser et de faire nous-mêmes. On se débrouille. Soit parce qu'on n'a pas confiance, soit parce qu'on trouve que Dieu n'agit pas assez vite, soit parce qu'il ne fait pas comme nous souhaitons qu'il fasse. Ça vous parle ? Ouais. En fait, c'est un peu désolant, pour ne pas dire dramatique. Tu n'as pas assez confiance, alors je vais être un peu plus direct, tu n'as pas assez confiance dans l'amour que Dieu a pour toi et tu cherches à te débrouiller tout seul. Et tu cherches à te débrouiller tout seul parce que tu n'es pas persuadé que Dieu t'aime ou parce que tu n'es pas persuadé que le Seigneur peut pourvoir à tous tes besoins. Il y a de l'incrédulité. Pour le dire autrement, il y a un manque de foi. Manque de foi en son amour. Manque de foi en son pouvoir, en ses possibilités. Et c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. Dans les études, dans l'emploi, dans les sentiments amoureux, dans les finances, dans la santé, et j'en passe. Il y a un livre, alors je ne sais pas si il est ou non encore à la librairie en vente, s'il est épuisé ou pas, mais c'est un livre franchement excellent que je vous recommande. Et son titre, c'est « Votre Père sait ». Et c'est basé sur ce verset-là. « Votre Père sait de quoi vous avez besoin ». Donc, je n'avais pas le temps de trop chercher dans mes bouquins où est-ce qu'il était. Je suis allé chercher sur Internet le résumé de ce livre. Dieu s'occuperait-il également des problèmes de notre existence ? L'auteur de ce livre a voulu rendre témoignage au fait que Dieu s'occupe de ce qui concerne ses enfants, plus que ceux-ci ne le pensent. Mais, dit le résumé, il y a une condition, une foi absolue et inébranlable. Le témoignage de Martinus montre qu'il n'existe pas de réalité qu'il n'existe pas en réalité d'aspect spirituel ou d'aspect matériel dans la vie des chrétiens, et qu'en toutes circonstances, ils doivent faire confiance en Dieu en faisant sa volonté, quel qu'en soit le prix. Pas de différence entre les aspects dits spirituels ou que nous pensons être spirituels et les aspects matériels. Une fois que nous sommes enfants de Dieu, alors il s'occupe de tout. Mais l'auteur dit que ce n'est pas facile. Je ne me rappelle plus si c'est lui qui s'occupait d'un orphelinat. Et la chose qui me reste en pensée, en tête, c'est qu'il avait dû... C'est vieux comme histoire, hein. Il est décédé, je pense, depuis un moment. C'était après la guerre et il a été apporter une conférence et il n'avait pas d'argent. Et le Seigneur lui dit, ben, tu retournes chez toi. Ah ouais, mais Seigneur, j'ai pas d'argent, je peux pas retourner. Retourne, tu vas. Et donc, il s'est mis dans la file des personnes qui attendaient pour prendre un billet de train. Il dit, je vais avoir l'air bête parce que j'ai pas. Il était accompagné d'un frère qui... l'avait amené jusque-là, jusqu'à la gare, et ils discutaient ensemble. Et il disait, ou en tout cas, il raconte son anxiété intérieure. Seigneur agit et intervient, et ben, rien ne se passait. Et puis, il y a la personne qui est juste devant lui au guichet, et puis le frère lui dit... écoutez, je ne peux pas rester, j'ai un autre rendez-vous, je vous laisse, mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner ça. Et lui a donné l'argent lui permettant de prendre le train. Mais il a fallu qu'il fasse la queue, qu'il soit dans la file d'attente. Je vous prie de croire que c'est... Bon, hein. On dit bravo, mais je voudrais juste qu'on se mette, nous, à sa place, en disant, ben, Seigneur, j'ai pas, je vais pas prendre, je vais pas... Qu'est-ce que je vais dire au guichetier? Enfin, j'en sais rien, mais c'est ce type de témoignage, me semble-t-il, qu'il y a dans ce livre, le Seigneur sait. Et sans argent, il a accueilli, je sais plus combien, je crois que c'était 50, 56... enfant dans un orphelinat. Le Seigneur sait ce dont vous avez besoin. Et nous, et je m'y mets dedans, hein, nous sommes souvent incrédules et on se dit on va faire autrement. L'autre jour, avec un de nos petits-fils, on a regardé une émission avec Arthur. C'était les gens qui devaient être cascadeurs. Et puis, ils ont mis ces humoristes, pour la plupart, ils ont dit, ben, hop, tu mets un bandeau. Et puis, ben, tu vas sauter. Alors, d'abord, c'était on va là-haut. Donc, ça faisait 10-15 mètres. Et puis, en les emmenant l'un après l'autre, comme pour les gamins, ils les harnachaient, etc. Et puis, les yeux étaient bandés. Et puis, ils disaient, allez, va, proche. N'aie pas peur, t'es attaché, tiens, prends la main. Et puis finalement, les gens devait sauter, et puis il sautait, le matelas était juste là, quoi. Il se ramassait sur le matelas. Alors là, dans cette... puisque notre petit-fils, je ne sais pas s'il voudrait être cascadeur, mais enfin, il y va, quoi. C'était jusqu'à quel point tu as confiance aux autres. Et nous pouvons transposer jusqu'à quel point tu as confiance en Dieu. Je me rappelle d'un petit dessin, mais c'est le même genre. C'est le Seigneur qui amène un gars près d'une falaise et il dit au gars « saute ». Et le gars de répondre, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu pour me dire saute. Mais de sauter, c'était pareil, c'était juste une marche, mais la personne ne le voyait pas. Jusqu'à quel point j'ai confiance, jusqu'à quel point tu as confiance dans l'amour de Dieu, dans ses provisions, dans sa capacité de faire des choses qui ne sont pas ordinaires. Jésus est né d'une vierge. C'est quand même peu probable, quoi. Et on pourrait multiplier les choses. Cela dit, il ne s'agit pas de faire confiance en Dieu en restant dans son canapé en disant « Seigneur, viens ». Les choses ne tombent pas, si je puis dire, du ciel tout seul, ou tout cuit dans l'assiette, selon l'expression. Paul, l'apôtre, il a été pendant un temps obligé de faire des tentes pour gagner sa vie, faiseur de tentes. Il n'était pas là à dire « Seigneur, il faut absolument que l'argent vienne d'une manière surnaturelle. Écoute, y a un boulot, alors tu bosses. » On nous a dit à Daniel et moi-même « vous voulez aller à Angers, implanter une église. Ouais, c'est bien, c'est chouette. Que Dieu vous bénisse, on n'a pas de quoi... » Vous financez, mais que le Seigneur vous bénisse. Et la réponse a été, avec ou sans finance, nous nous sentons appelés par Dieu, alors on y va. Et le premier boulot que j'ai fait en arrivant ici à Angers, c'était de mettre les barrières de sécurité sur l'autoroute de Nantes en construction, en plein hiver. Et puis... Le plus souvent, j'ai travaillé à mi-temps pour qu'avec Daniel, on puisse accompagner les 1 à 3 personnes que nous accueillions chez nous, des fois pendant des mois. Et on vivait avec 3 enfants, 3 accueillis, nous deux sur un demi-salaire. Et Daniel... l'habitude de témoigner, nous n'avons jamais été riches, mais nous n'avons jamais manqué de rien. Et nous avons parfois bénéficié de la délicatesse du Père. Nous pouvons nous éclater dans le boulot, dans les études. Nous pouvons nous éclater, ou en tout cas être très heureux dans notre vie de couple et de famille. C'est légitime. En même temps, le Seigneur nous dit, cherche les choses qui sont en haut. Le but ultime de ce que Dieu veut nous faire vivre, c'est d'être à la recherche de ce qui se passe en haut, sans négliger le reste. Et Jésus est forcément notre exemple lorsqu'il dit entre autres dans le jardin de Gethsémané avant d'être crucifié, non pas ma volonté mais la tienne. Et cette parole est dite dans un moment quand même compliqué, quoi. Je sais que je vais mourir, mais j'ai pas trop envie, mais finalement c'est ta volonté qui est plus importante. Plus importante que ma propre vie. Cherchez les choses d'en haut. C'est donc un engagement à faire la volonté de Dieu. Tu veux chercher les choses d'en haut? Tu veux voir ce qui s'y passe et comment être assis avec le Christ? Alors, la première chose à faire, c'est de dire « Je veux faire ta volonté. Je suis déterminé à faire ta volonté. » Nous l'avons lu, « Ne vous inquiétez de rien. » Et puis, ça c'est la forme un peu négative, et puis la forme qui arrive après, c'est « cherche premièrement son royaume et sa justice ». Donc j'ai pas le temps aujourd'hui de vous parler du royaume et de la justice, mais on le fera une autre fois. Mais ce qui est vraiment important, en tout cas, sur quoi Jésus met le curseur, c'est cherche premièrement, non pas ton intérêt, non pas ton confort, non pas ce qui est légitime, mais cherche ma volonté, cherche à faire ce que j'ai envie que tu fasses, prends le chemin de la destinée que j'ai prévue pour toi, cherche. Faire cela, premièrement, prioritairement. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, dit Jésus. Laisse ton anxiété, tes soucis et ta peur. On l'a dit, à chaque jour suffit sa peine. J'ai l'impression d'entendre le Seigneur nous dire, si tu fais ma volonté, alors ne t'inquiète pas pour le reste. Nous le savons, mais nous avons du mal à le vivre. Ton chant sur la confiance que nous avons chanté ce matin, que j'espère qu'on va rechanter à la suite de l'enseignement, est vraiment excellent. Et c'est tout à fait ça, ma confiance est en toi. Ah, on le chante. Mais parfois, on chante seulement. Tu veux voir les choses d'en haut? Alors, apprends à faire confiance dans ton Père céleste qui sait ce dont tu as besoin. Cela m'amène au deuxième point. Chercher les choses d'en haut, c'est donc accepter la volonté de Dieu, on en a déjà parlé. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas faire la volonté de Dieu et puis le matin, et puis encore la volonté de Dieu l'après-midi, et puis le lendemain et le surlendemain. Chercher la volonté de Dieu, c'est un style de vie. Comme tu respires, tu fais la volonté de Dieu. L'autre jour, quand les jeunes ont été interviewés à RCF, j'ai bien entendu, hein. Alors, La prière, c'est comme la respiration ? Ah oui, oui, on prie comme on respire. C'est pas juste je prends le matin, ou le midi, ou le soir un temps de prière, je suis en prière, continuellement. L'apôtre le dit, prier sans cesse. Mais c'est un style de vie. C'est une manière de vivre. Chacun, en tout cas, à chaque baptême, j'entends les personnes déclarer « Seigneur, je marche avec toi. Tu veux marcher avec Jésus tous les jours ?» Oui. Tous les jours de ta vie, oui. Où est-ce que nous en sommes avec l'engagement que nous avons pris à marcher avec Jésus, dans sa confiance, dans sa volonté, tous les jours de notre vie? En fait, nous ne pouvons pas vivre dans la volonté de Dieu sans lui être soumis. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Je parle de soumission. Dans une époque où nous ne voulons pas, où nous ne voulons plus de soumission, parce que nous voulons être libres. Certes, personne n'a envie de se mettre sous la coupe de quelqu'un d'autre, ni au travail, encore moins dans l'église, et vous avez raison. Il ne me semble pas, mais enfin ça après c'est une manière de voir, hein, mais il ne me semble pas que j'exerce un quelconque autoritarisme sur vous, ni de manipulation. Si c'est le cas, venez me le dire. Mais il ne me semble pas. Lorsque je pense à ce sujet de soumission, je l'illustre par la vie de couple, dans laquelle il y a une intersoumission, une interdépendance, en principe, vécue dans l'amour et non pas la domination ou le devoir. En tout cas, ça devrait être comme ça. Je sais bien que ce n'est pas comme ça dans tous les couples, mais c'est comme ça que ça devrait être. En tout cas, c'est comme ça, me semble-t-il. Je regarde Daniel pour savoir si c'est comme ça qu'on vit, mais voilà, je ne voudrais pas qu'après, ils disent, ben non. Une intersoumission, une interdépendance, l'un et vis-à-vis de l'autre, dans l'amour et non pas dans le devoir ni la domination. Ça me paraît important. Et dans notre relation avec Jésus, c'est pareil. Donc je reviens un peu au baptême, parce que je pense que c'est un moment, en tout cas pour moi, ça a été un moment clé dans ma vie chrétienne. J'ai décidé de marcher avec toi, Seigneur, en faisant ta volonté, toute ma vie, avec ton aide. Est-ce que vous pourriez redire aujourd'hui au Seigneur cette chose ? Seigneur, je décide de marcher avec toi en faisant ta volonté durant toute ma vie avec ton aide. Parlant de soumission, j'ai déjà partagé ici, Bernard m'avait dit le Seigneur, tu ne pourras pas être efficace. Tu ne pourras pas me servir efficacement sans te soumettre. J'avais alors des graves problèmes de relation avec le pasteur avec qui je travaillais. Et je le dis hein, parfois, mais pour ceux qui ne sauraient pas, nous vivions une vie communautaire et on vivait tous les jours avec lui. C'était pas seulement une fois le dimanche, je vois le pasteur qui me casse les pieds, qui m'agace, qui... C'était tous les jours. Au point qu'un jour, dans la vie communautaire, je me suis levé pour lui en mettre une. Et Daniel m'a attrapé, m'a fait asseoir. C'était chaud, comme on dit. Bon, j'avais besoin d'être sanctifié encore, hein. Mais, ouais. Ha. Même si, après notre départ, ce pasteur est devenu un gourou, à cette époque-là, le Seigneur me disait, toi, tu dois être soumis à ce gars-là. Et même s'il te déplaît, même s'il te casse les pieds, même si tu trouves à critiquer ceci ou cela, Bernard, je te demande d'être soumis à ce gars-là. Seigneur, tu n'as pas une autre solution ? Les amis, j'ai entendu ce que le Seigneur me disait. Tu ne peux pas me servir efficacement si tu n'es pas soumis à ce gars-là. Et il ne s'agit pas de chercher les défauts. C'est un principe. À partir de ce moment-là, pendant 5 ou 6 mois, presque tous les jours, je priais, Seigneur, aide-moi à être soumis à ce mec. 5-6 mois de torture, parce que j'avais été élevé autrement. C'était pas seulement le gars, c'était quelque chose que j'avais hérité de mes pères, comme on dit. Mais pas seulement. Et pendant 5-6 mois, il a fallu que je prie en disant, Seigneur, je n'arrive pas. Viens, par l'Esprit Saint, le faire dans mon cœur et dans ma vie, dans mes pensées, parce que j'arrive pas. Tu me demandes une chose que je n'arrive pas à faire et à vivre. La solution, c'était effectivement de venir, j'allais dire presque tous les jours, devant le Seigneur pour lui demander qu'il fasse son œuvre dans mon cœur pour que ça se réalise. Et un matin, je ne sais pas pourquoi ce matin-là, mais hop, je suis allé voir le pasteur en disant « Le Seigneur m'a permis, l'Esprit Saint m'a permis de régler le problème. Voilà comment ça va se passer. » Quand tu vas me demander quelque chose que je ne trouve pas juste, je te dirai, ok, je fais ce que tu me demandes, même si je trouve que ce n'est pas juste, mais la responsabilité, c'est toi qui l'endosses devant le Seigneur. Chacun sa responsabilité. Moi d'être soumis, mais lui de prendre la responsabilité. Devant Dieu, je lui ai dit, la seule chose que je ne te permettrai pas de faire tant que nous sommes dans cette communauté, parce que ce pasteur voulait, c'est pas qu'il voulait, c'est qu'il il voulait engager les personnes à signer un engagement à vie dans la communauté. Donc tant que je suis là, ça passera pas. Et ça s'est passé après. Mais après, j'allais dire, ça me regarde pas, puisque moi, ce qui me regardait, c'est que le Seigneur puisse travailler mon cœur jusqu'à ce que je sois soumis. Je n'avais pas conscience à ce moment-là, et j'en ai eu conscience seulement des années après, que parce que j'ai appris la soumission à cet homme, les puissances démoniaques m'étaient soumises. Comment veux-tu que les démons te soient soumis si toi, tu n'es pas soumis? Comment veux-tu ordonner des choses dans le ciel si toi, tu n'es pas soumis? Il y a une réalité spirituelle. C'est pas seulement je suis soumis à un bonhomme qui me casse les pieds et qui me sort par les trous de nez. C'est quelle position spirituelle j'ai. Et quand on parle de ce sujet-là, cherche les choses d'en haut. C'est ça. Cherche les choses d'en haut. Cherche à te laisser transformer pour vivre après les choses d'en haut, les choses surnaturelles. Le fait, je le dis, je le redis, le fait d'être pasteur ne me donne aucun droit sur aucun d'entre vous. La soumission, elle ne peut se vivre que si vous avez confiance dans ce que le Seigneur nous donne de vivre ensemble. Je vais arrêter là. Cette semaine, je vais illustrer mon propos par autre chose. Cette semaine, j'ai été appelé par l'hôpital. Allô ? On ne connaît pas trop, mais vous êtes l'aumônier protestant, oui, vous êtes pasteur, oui, on a une jeune fille qui est hospitalisée, qui voudrait vous voir. Ok, ben j'arrive, c'est le matin, je suis allé l'après-midi, et là je rencontre une jeune fille, une ado, qui fréquente une église de la ville, et donc le personnel me dit « Ah, on ne souhaite pas trop qu'elle fréquente l'église, d'ailleurs on ne sait pas ce que c'est qu'une église évangélique. » Enfin bon. Donc, je commence à taper la causette avec elle. Elle a évangélisé un gars qu'elle a amené à l'église. Sauf qu'elle est tombée amoureuse. Alors je lui dis, mais t'as pas senti une petite voix qui te disait non, commence pas ta relation amoureuse. Si, j'ai bien entendu. Je dis, est-ce que tu as dit ah c'est pas très grave, c'est tellement chouette d'être aimé. T'as pas dit ça? Ah ben si, comment vous le savez? Et tu as quand même continué cette relation qui a été compliquée pour toi? Oui, parce que je ne sais pas trop comment faire autrement. Je dis, ouais, mais tu es là pour une tentative de suicide. Tu ne peux pas écouter Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux marcher avec toi dans ta volonté. Il n'y a pas longtemps... J'ai entendu quelqu'un dans mon bureau prier « Ah Seigneur, je sais que ce n'est pas ta volonté, mais je veux quand même. » Qu'est-ce que c'est? Je sais que ce n'est pas ta volonté, mais je veux quand même. On rigole, mais ne regardons pas la paille. Tu veux grimper avec Dieu, voir les choses d'en haut? La première chose, c'est soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Ah oui, mais c'est contraignant. De toute façon, je vais vous dire une chose. Si on ne se soumet pas à Dieu, on se soumet à l'esprit du monde et de la société dans laquelle nous sommes. Et dire, voilà, soit tu es avec le Seigneur, soit tu es avec l'esprit du monde et de la société qui nous environne. De toute façon, tu es influencé. Et en ce qui me concerne, je préfère être à avec le Seigneur, même si ce n'est pas toujours facile, parce que lui, il cherche des choses vraies, profondes, fortes. J'aime bien la formule de Philippe de Courroux qui nous dit « Il y a une différence à réussir dans la vie ou de réussir sa vie. » Je trouve ça pertinent. Hein. Il y a une différence à réussir dans la vie ou réussir sa vie. Qui est-ce qui a déjà, ça c'est juste une question comme ça, hein, qui est-ce qui a déjà prié le Notre Père? Oui? Oui? Ah, il y en a quelques-uns. Hein. Seigneur, que ta volonté soit faite. Dans mon cœur, sur la terre, c'est un peu facile. Hein. Que ta volonté soit faite dans mon cœur, dans ma vie. Comme ta volonté est faite dans le ciel. Que ton règne vienne en moi. Recherchez les choses d'en haut. Là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Ça commence par là. Je vous invite à un temps de silence. Juste avec deux axes que vous pouvez ou non dire au Seigneur, dans le silence, hein, c'est dans le silence de votre cœur. Seigneur, je veux te faire confiance, avoir foi en toi, en ton amour, en tes richesses infinies, pour tous les besoins de ma vie. C'est un axe. Je veux faire confiance, parce que je sais que tu es un Père qui sait ce dont j'ai besoin. Et l'autre axe de prière, je veux, Seigneur, à nouveau m'engager à faire ta volonté. Voilà, je vous invite à 2-3 minutes de silence pour que nous puissions chacun faire cette prière. Voilà, vous allez pouvoir prolonger ce temps dans votre prière personnelle.